Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Richard Séguin, dans sa célèbre chanson, chantait « Je frappe aux portes du matin ». Mais nous, nous allons frapper aux portes des gens pour aller répandre la bonne nouvelle.
Oh! La bonne nouvelle?
Ben, ou l'information. Okay. Là, selon. C'est pas toujours de la bonne nouvelle, mais...
Je te comprends.
Un peu de la nouvelle pareille.
Oui, non, on est un peu des disciples de la nouvelle.
De hein? l'information, oui. Voilà.
C'est ce que nous sommes, finalement.
Et il est de bonne humeur.
Bonjour, oui, bonjour à tous.
Et vous autres aussi à la maison, j'espère que vous êtes de bonne humeur.
Ben oui,
avec les deux gars qui sont là pour prêcher l'information, la nouvelle, puis on dissémine ça un peu partout.
OK, on va arrêter de prêcher, là, puis on va y aller avec le mot du jour.
Pas le mot du jour!
Oui, le mot du jour!
OK, quel est-il le mot du jour?
Logement.
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 Tu m'arrives avec ça comme ça.
Oui, logement.
Logement.
Mm-hmm.
nous ne sommes pas dans notre logement, nous sommes dans le studio 84.
Oh, le studio 84.
Ben, tu sais, tant qu'à faire,
ben oui.
tant qu'à s'en péter, là, comme on dit. Ou
c'est
tant
exact. Fait, hein? Oui.
T'sais, on aurait pu dire dans le studio numéro 1, il n'y en a rien qu'un.
C'est ça, mais on occupe le building au complet.
Mais alors, on
donc
est dans
on
le
a 84 studios.
On est dans le studio 84.
Donc, notre logement, il est là.
On est logé comme ça, là, dans ce petit studio qui a l'air de rien, mais qui est tout à fait fonctionnel.
Absolument. Et qui nous permet... de vous parler à chaque semaine.
Et de parler de quoi cette semaine?
Cette semaine, on va avoir l'occasion de parler à Monsieur Jonathan Durand-Folco,
oui,
qui est de l'Université Saint-Paul à Ottawa.
OK.
Et devine de quoi on va parler?
Je sais bien pas.
De la crise du logement.
Ah, OK.
Logement.
Logement.
Et voilà.
OK.
Et également, on va s'entretenir avec l'ancienne sénatrice, Madame Claudette Tardif, qui a reçu l'Ordre de l'Excellence de l'Alberta. Elle est la deuxième francophone à recevoir cet ordre.
Ah oui, pas plus?
Seulement, non.
Eh bien,
Madame, très sympathique, d'ailleurs.
OK.
Oui.
En fait, c'est moi qui t'avais posé la question il y a quelques semaines de ça. À combien en étions-nous rendus dans cette émission-ci?
On approche de la cinquantaine, mon
frère. Oui, c'est ça qu'on se disait.
Oui.
48e, là, actuellement.
Effectivement.
48e émission.
Oui.
Et nous tenons à vous préciser que pour la 50e et la 51e,
mm-hmm,
ça va être un genre de best-of.
Non, pas un best-of.
On a tellement eu de sujets intéressants.
Oui, et d'invités tellement intéressants.
Oui. Alors, on braquera pas les projecteurs sur François et moi, mais plutôt sur nos invités. J'espère que les gens se rendent compte qu'on a parlé de CubeSat.
Oui, hein, on a parlé de satellites, oui.
On a parlé de quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai écrit sur ma feuille? On a parlé d'incendie de forêt. On a parlé d'aquamation.
D'aquamation. Celle-là, je l'avais bien aimée.
As-tu déjà entendu parler d'aquamation dans un show de radio?
Non,
toi?
Pas vraiment.
Hein? Fait que c'est vous dire toute la palette de sujets
mm-hmm
auquel on s'est intéressé depuis l'automne 2022.
Effectivement, oui. Ça fait seulement un an, là.
Ouais, ça fait qu'en quelque chose comme tout près de 50 émissions maintenant, on a ratissé large on va sélectionner quelques-unes
des
ces entrevues-là qui ont été parmi les plus appréciées. Puis comment qu'on a fait ça, entre autres, c'est qu'on en a mis plusieurs d'entre elles, ou enfin le podcast là, sur notre site, puis sur nosradios.ca et tout ça.
Mm-hmm.
Puis on est allé voir un petit peu les fréquentations.
Oui.
Bon, fait qu'on a vu ça. Celle-là, ça a bien marché. Puis
c'est
tout ça,
oui.
Fait que c'est un petit peu ça. Puis il y a quelques personnes dans notre entourage aussi qui nous ont dit
que ceux-là étaient bonnes.
J'ai dit que l'aquamation, c'était pas pire. Puis,
oui, effectivement, oui. Aujourd'hui, ça s'est-tu déjà arrivé... d'avoir un billet pour excès de vitesse?
Ça m'est arrivé une ou deux fois. Ça m'est arrivé plus d'une fois. J'en ai contesté certains d'entre eux.
Non.
Puis je les ai gagnés.
T'es-tu sérieux?
Oui, absolument. Puis j'avais raison. Ben écoute, quand tu fais la démonstration que t'as raison, que par exemple la signalisation est déficiente, le policier n'était pas installé au bon endroit ou des trucs du genre, j'ai gagné des tickets de vitesse.
Okay.
Mais il y en a deux qui étaient légitimes, là, puis que j'ai pas contesté. J'ai dit, écoute, là, C'est correct, je vous le donne.
À un moment donné, là, tu vas apprendre ta leçon, mon grand.
Exactement.
Bon, OK. Moi aussi, ça m'est arrivé à deux reprises dans ma vie d'avoir des billets pour excès de vitesse. Puis c'était, j'essaie de me souvenir du montant, là, mais alentour de à peu près 100$.
OK.
Mettons à peu près alentour de 100$. Ben, peu importe où on est dans le monde, mon cher, tous les conducteurs sont assujettis à des règles de sécurité routière, n'est-ce pas?
Ben, j'espère.
Bon. Dans le cas d'un excès de vitesse, plus la limite permise sera dépassée, plus l'amende sera salée, n'est-ce pas?
Ben, il y a un lien, oui, généralement, là.
Bon. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé du côté de la Géorgie, aux États-Unis, où un conducteur a été intercepté pour un billet pour très grands excès de vitesse. OK? C'est pas juste de l'excès de vitesse, c'est du très grand excès de vitesse.
C'est un concept qu'on a aussi de ce côté-ci de la frontière, si je me trompe pas.
Oui, 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 on a ça aussi. L'amende dépasse largement le montant auquel le monsieur pouvait s'attendre, soit plus de... T'es-tu bien assis?
Je suis en train de m'accrocher à mon siège parce que juste de me donner ça là, comme référence, déjà, là, je commence à me préparer mentalement.
Le monsieur, il a eu un ticket de vitesse de 1,4
non.
millions de dollars américains.
Non.
1,9 canadiens à peu près au taux de change actuel. Je te le dis.
Comment tu fais pour prendre ça?
1,9. Non, mais dans certains États aux États-Unis, là, comme, fais attention là, quand tu dépasses les limites de vitesse.
Tu me niaises?
Non, pas du tout.
Ah, ouais.
Oui, puis dans ce coin-là, en plus, lui, oui, il a eu sa contravention. Je suis déjà passé par là, puis effectivement, on m'avait dit, quand tu passes en Géorgie, là, fais donc attention.
OK.
Aie pas le pied trop pesant, parce que c'est ça, tu pourrais te mettre dans le trouble. Comme il s'agit d'une contravention pour très grands excès de vitesse, les conducteurs qui reçoivent ce type d'infraction en Géorgie doivent se présenter devant un juge
okay.
afin d'établir la sentence exacte. Fait que la citation qu'il a reçue, elle a été produite électroniquement, bien sûr, par le système qui entre par défaut la somme de 999 99.
Juste pour pas dire que c'est 1 million.
Ouais, c'est ça. Plus les frais.
OK.
Bien entendu. On peut donc comprendre que le conducteur aura pas à payer une amende de 1,4 million s'il se présente devant un juge.
Oui.
OK. Parce que c'est le juge qui va déterminer le montant exact de l'amende.
Ouais,
mais ça va faire mal au portefeuille.
Ben, c'est juste voir le montant, tu fais comme... ça fait écarquiller les yeux un petit peu.
Ben,
en même temps, il court après, tu sais.
Ben,
pour avoir un grand excès de vitesse.
Oui, absolument, parce que lui, il roulait 145 km/h.
OK.
Dans une zone de 90.
Ben là, tu sais, c'est comme...
C'est 5 en 5 de plus.
Ben c'est un peu pas mal. C'est, je veux dire, parce qu'en principe 90, ça peut être aussi bien que comme dans des boulevards urbains ou des trucs
oui.
de genre.
Y a, oui.
C'est pas encore une autoroute, c'est pas non plus une rue là, mm-hmm. ou une avenue, mais
oui.
tu sais, 145 km/h dans
une zone de 90 là, c'est.
Ils ont poussé ta loc. Ouais,
peu.
Mais en même temps, j'avoue qu'ils ont le crayon un petit peu.
Oui, absolument. Mais tu sais quand tu rentres en Ontario là.
Ouais.
Bon. Il y a des belles grosses pancartes qui te disent que oui. si tu roules 160, au-dessus de 160, tu perds ton permis direct là.
Ouais.
Ils t'enlèvent ton permis, saisissent ta voiture et l'amende va être aux alentours de 10 000 $.
Ben, au moins, tu es averti. Tu le sais, si tu habites la Géorgie puis que...
C'est ça, exactement.
Fais attention.
Oui, c'est ça. Ils disent pas quelle voiture qu'il avait, par contre, là.
Ben, de pas avoir un Hyundai Sonata, certain.
Ça
de même.
Non, ben, je dis ça de même non plus, oui, effectivement.
Je fais pas le jugement de valeur, là, mais je suis comme...
Oui. Non. Il y avait pas une fit, là, ou quelque chose du genre, là.
Moi, je vous parle d'informatique pour la mise à jour probablement la plus incroyable qui soit survenue dans l'histoire.
Windows 3.1.
Yeah. Non, t'es comme... ben, je dis ça, puis en même temps... ils ont mis à jour un programme de Fortran 5. C'est la NASA qui a fait ça.
Ah oui?
Ouais, mais c'est pas tant le fait d'avoir fait cette mise à jour-là qui est exceptionnelle comme la distance sur laquelle ça s'est effectué.
OK. Explique ma curiosité.
Et le programme, ou en fait l'ordinateur sur lequel ça a été effectué. Alors,
okay,
vous pensez...
Fait que c'est pas le laptop du voisin, là.
Mais non, c'est pas dans le studio d'à côté.
Okay.
Là, c'est ça, là. Alors, vous pensiez que faire une mise à jour sur Windows 10 ou Windows 11, mm-hmm. c'était une tâche titanesque? Parce
absolument.
Qu'on est pogné là des fois pour...
oui, longtemps.
C'est ça, une couple d'heures, quasiment oui. le restant de la journée. Mais imaginez-vous donc que la NASA, donc l'Agence spatiale américaine, vient d'effectuer l'une des mises à jour informatiques, probablement les plus extraordinaires, je dirais, de l'histoire... j'allais dire moderne, mais de okay. toute l'histoire, on a mis à jour les ordinateurs de bord des sondes Voyager 1 et Voyager 2 46 ans après leur lancement.
Wow!
Et ça a fonctionné.
Ça a fonctionné.
Ouais. On voulait résoudre une espèce de bug informatique qui empêchait les sondes de transmettre des données vers la Terre. Il y a comme une espèce de bug qui est survenu récemment. Okay. Et Voyager 1 et Voyager 2 ont été lancés dans les années 70, 1977 exactement. Et Voyager 1, entre autres, a quitté notre système solaire depuis 2012. Elle est rendue à... tu me disais de bien m'asseoir, j'espère que vous l'êtes aussi à la maison. 24 milliards de kilomètres. Et Voyager 2 est rendue à elle à peu près à 19 milliards de kilomètres. Et le problème, c'est que et c'est surtout Voyager 1 qui avait un problème. On a dit, ben, tant qu'à patcher du Fortran 5...
C'est
là,
ça, ouais, tant qu'à faire, on va faire les deux.
L'engage de Mathusalem, ou à peu près, on va faire les deux en même temps.
Okay.
Alors, ils ont envoyé cette espèce de patch, si on veut, sur une distance de 24 milliards de kilomètres.
Incroyable.
Et l'affaire, c'est qu'il y a un des ordinateurs de bord de Voyager 1, surtout, qui devait exécuter certaines opérations puis envoyer l'info vers la base terrestre.
Uh-huh.
Ça marchait plus. C'était enregistré dans la mémoire de l'ordinateur au lieu de voyager dans l'espace intersidéral. Fait que depuis à peu près 2022, il recevait des infos, mais il n'y avait rien qui était capable de tirer de ça. Alors, tu sais, on s'entend que comme il avait l'information, mais était stockée dans la sonde. Puis tu sais, 24 milliards de kilomètres, c'est une bonne ride pour aller chercher ça.
C'est ça.
C'est une clé USB. Ça fait qu'on a procédé à cette mise à jour-là, c'est littéralement historique. Mm-hmm. 24 milliards de kilomètres pour l'une, 19 milliards de kilomètres pour l'autre. Tu sais comment ça a pris de temps pour que le paquet là, arrive là-bas? Ça a pris 18 heures.
18 heures?
Ouais. Puis c'était comme pas
grand-chose. Ça n'a pas dû être un gros paquet non plus.
Non, c'était juste comme une couple de lignes de code là pour que ça fonctionne. Puis ça, écoute, les chances que ça colle pas là, ou que ça fonctionne pas auraient été grandes,
oui.
mais ça a marché. Ça a bien fonctionné.
Ah ouais.
Alors Voyager 1 est guéri.
Ah.
Voyager 2 n'était pas à proprement parler vraiment malade dans son cas, mais on a dit, garde, tant qu'à faire une, on va faire les deux. Et d'ailleurs, les deux missions, techniquement, leur mission est terminée depuis belle lurette. Parce qu'elles avaient une espèce de voyage à faire et à envoyer de l'information, mais elles continuent de fonctionner.
C'est ça.
Écoute, 24 milliards de kilomètres. Tu sais, quand ils disent dans Star Trek, where no man has gone before,
Ouais.
Ben là, c'est comme 24 milliards de kilomètres, là. Parce qu'il n'y a même pas un char qui est capable de faire.
Mais t'espères-tu que la patch marche?
Ils ont dû se croiser les doigts, hein? Un petit peu. Alors, voilà.
Tu sais, imagine ce que ça a pris pour arriver à ça, là, tu sais.
Ouais,
pour pouvoir envoyer la patch.
Ils envoient des commandes.
Hey, c'est de la planification.
Et là, ils ont envoyé ça. Ils ont dit, bon, croisons les doigts, espérons que ça fonctionne. Puis finalement, ben, ils ont reçu en contrepartie ou en retour des informations qui disaient, ah, ben, tout fonctionne. Ça va recommencer.
Mais c'est beau quand même qu'ils soient capables d'en envoyer des patchs comme ça, hein, puis que ça fonctionne. Puis nous autres, on fait un update. Puis on
se ramasse avec un blue screen.
C'est ça. Blue screen of death.
C'est ça. On va s'arrêter pour une courte pause. On vient dans un instant. On parle d'accès à la propriété. On parle de crise du logement. Et on a beaucoup d'autres sujets d'ici la fin de l'émission. Restez branchés.
Restez en contact avec Le Contenir des infos.
Le Contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com.
Le Contenir des infos.
On vit ces jours-ci, et je pense que plusieurs d'entre vous l'avez constaté, une espèce de crise du logement.
Oui.
Hein, c'est l'accession à la propriété de plus en plus compliquée, me semble-t-il.
C'est de plus en plus difficile et de plus en plus onéreux.
Oui, absolument. Pour les jeunes ménages, là, c'est pas facile. Même se loger à proprement parler, même obtenir un loyer à bien des endroits à travers le pays, c'est rendu quelque chose d'assez compliqué.
C'est oui, puis à certains endroits, c'est presque impossible.
Oui, puis et d'autant plus encore que ça coûte dans bien des cas une fortune pour se loger.
Absolument.
On a voulu discuter justement de cette problématique, de qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, comment on en est arrivé là. Celui qu'on va recevoir aujourd'hui à l'émission s'appelle Jonathan Durand-Folco. Il est professeur agrégé à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et il est en outre l'auteur d'un bouquin qui est paru en 2017, qui a été publié chez Éco-Société et qui a pour titre « À nous la ville, traité de municipalisme ». Et ça tombe bien parce qu'on va parler justement de la ville, l'accès à la propriété et tout ça. Et on l'a avec nous au bout du fil. Monsieur Durand-Folco, bonjour.
Bonjour.
François, tu as une première question? Oui, mais ça nous fait plaisir, absolument.
Oui, moi, la première question qui m'est venue tout de suite à l'idée, quand on a parlé de l'entrevue, c'était comment est-ce qu'on est arrivé à ça? On est arrivé comment, là?
Oui, en fait, c'est une excellente question. Il y aurait plusieurs causes, je dirais. D'une part, il y a une dynamique que le prix moyen des maisons, des propriétés, des condos et autres a augmenté continuellement dans les 20 dernières années, en raison notamment de faibles taux d'intérêt et aussi à cause d'une dynamique de spéculation immobilière. Donc, le marché immobilier fait partie du système économique capitaliste et il y a plein, en fait, de dynamiques qui font en sorte que, le fait de se loger quelque part, ça a une forme de valeur d'usage pour les gens qui habitent et qui se logent, mais c'est aussi une sorte de valeur d'échange que les gens peuvent acquérir ça pour ensuite revendre leur propriété et faire un profit par la suite. Et cette dynamique-là de, disons, de marchandisation du logement existe depuis très longtemps, mais il y a eu une accélération de ça dans les 20 dernières années. Et à ça se surajoute en plus un sous-financement du logement social, se rajoute aussi ce qui vient avec les Airbnb et toute cette économie collaborative, le fait que, par exemple, des gens se mettent à acheter des propriétés, non pas pour y habiter, mais pour faire de la location à court terme et ça fait en sorte que ça retire beaucoup de logements puis ça fait en sorte que beaucoup de gens peuvent pas se loger. Et ensuite, dans les 2-3 dernières années, avec la pandémie qui est arrivée, beaucoup de gens ont acheté des maisons. Il y a une dynamique, une surenchère qui s'est faite dans beaucoup de cas. Et là, on se retrouve en plus avec des taux d'intérêt hyper élevés du jour au lendemain à cause de la Banque centrale du Canada, qui fait que maintenant, le coût pour acquérir des propriétés, puis même pour les gens qui ont acheté il y a 2-3 ans, ils se retrouvent un peu pris à la gorge par ces taux d'intérêt extrêmement élevés. Donc, on est vraiment dans une situation très, très difficile à l'heure actuelle.
Oui, M. Durand-Folco, ça veut dire que si, jadis, on s'achetait une maison pour se mettre un toit sur la tête, comme on dit, et à la rigueur, se faire un petit fonds de pension, dans le sens où on allait vendre la maison une fois à notre retraite, puis se faire un petit pécule, maintenant, c'est beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que c'est de l'investissement, c'est de la spéculation, c'est de la location et des trucs du genre, et c'est pour ça, on est un peu comme l'hamster qui s'est pogné la patte dans l'engrenage, là, c'est un peu ça.
Oui. Exactement, oui, vous le dites extrêmement bien, puis c'est ça, donc cette dynamique-là de spéculation existait il y a un siècle déjà, mais là, c'est rendu tellement important que là, en fait, puis on n'a plus assez de logements où aller non plus, le taux d'occupation est extrêmement faible, et tout ça mis ensemble fait en sorte que là, pour des ménages, pour monsieur, tout le monde, la classe moyenne et les gens encore plus pauvres, là, c'est rendu impossible carrément. Ça devient extrêmement difficile.
Ouais. C'est quoi les mécanismes là, qui pourraient être mis en place pour justement favoriser l'accès à la propriété pour ceux et celles qui veulent être en maison ou à tout le moins pour les ménages qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison, d'au moins accéder au logement parce que même là, même le locatif est rendu, ça n'a pas de bon sens les prix des logements. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mécanisme?
Exactement, mais en fait, il y a différentes choses qui existent, mais je dirais que c'est pas une seule chose. Dans la propriété privée, par exemple, il y a existé depuis un certain temps différents types d'incitatifs et de subventions pour acheter une première propriété. Ça fonctionne un peu, mais c'est souvent temporaire, puis c'est pas hyper efficace. Mais moi, je dirais que ce qui est important, c'est d'encadrer la spéculation immobilière. Donc, par exemple, des plateformes d'hébergement comme Airbnb, d'adopter des règlements plus stricts pour empêcher que des gens achètent des dizaines de propriétés pour les mettre en vente sur ça par la suite. Il faudrait mieux encadrer ça. Il existe aussi des coopératives d'habitation. Il y a des modèles de logement abordable, logement social également, qui n'est pas juste des HLM. On peut avoir des formes de logement très confortables sous forme d'OBNL, d'organismes non lucratifs. Puis il faut vraiment agir, je dirais, pour investir davantage, non pas dans le marché privé, mais vraiment pour développer des formes qui sont pas axés sur le profit puis qui permettent vraiment de sortir le logement de la spéculation immobilière.
Vous avez parlé des coops. Est-ce que ça pourrait être une solution à la crise du logement?
Je dirais que oui, c'est une des solutions à envisager. Les coopératives d'habitation, c'est un modèle qui est né au Québec et ailleurs dans le monde aussi dans les années 60 et 70. Il s'en est construit beaucoup, mais depuis les années 1980-90, il y en a beaucoup moins en raison de manque de subventions pour ça. Les procédures administratives aussi pour créer une coop d'habitation sont extrêmement longues. Moi, je connais des gens personnellement qui ont décidé, un groupe d'amis, de famille, de se lancer pour s'auto-construire une coop d'habitation. Il y a des subventions qui existent, mais ça leur a pris de 7 à 8 ans entre le début de la procédure et entre le temps où là, ça a été construit. Donc, c'est extrêmement long. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui font en sorte que les coops, c'est une alternative, mais c'est comme s'il y avait trop d'obstacles pour que ça puisse se généraliser par la suite. Mais là, on explore des nouvelles voies comme des coops de propriétaires aussi, qui est comme un modèle hybride. C'est comme la personne n'est pas juste locataire dans sa coop. Et la personne peut acheter sa propriété, mais elle peut pas la revendre à n'importe quel prix. Donc, ça permet de limiter la spéculation puis de donner accès à la propriété également.
Est-ce qu'il y a des bons exemples, M. Durand-Folco, là, qu'on pourrait nommer à travers la planète, qui vous viennent spontanément à l'esprit? On a, quand on est dans le nez collé sur un arbre, on a l'impression qu'il n'y a que cet arbre-là devant soi. On regarde le problème au Canada, la pénurie de logement, l'accès à la propriété qui est problématique. Mais j'ai l'impression que c'est un problème international, ou en tout cas que c'est pas strictement, disons, réservé au Canada comme problématique. Mais est-ce qu'ailleurs dans le monde, on a accouché de bonnes solutions qui vous viennent spontanément à l'esprit?
Oui, je dirais, mais en fait, vous notez un bon point. C'est bon de s'inspirer des meilleures pratiques à travers le monde. Une des villes, en fait, que je recommanderais d'aller voir puis d'approfondir, c'est la ville de Vienne en Autriche. De 1918 à 1934, il y a eu des gouvernements progressistes qui ont investi massivement dans le logement social, coopératif, à but non lucratif, à travers différentes formes. Donc, c'était pas juste des HLM comme on le voit aujourd'hui, des grandes tours qui sont pas très confortables. Ils ont vraiment construit des complexes immobiliers hyper importants qui étaient pas basés sur la propriété privée. C'était basé sur des entreprises publiques municipales, des OBNL, des coop. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023, sur une ville de Vienne qui est comparable à la ville de Montréal en termes de population, il y a 420 000 logements sociaux, dont 60 % de la population qui habite dans ça à l'heure actuelle, qui fait que les prix sont extrêmement bas. Ils payent presque 5 fois moins cher pour leur logement que ce qu'on a ici. Alors qu'à Montréal, je prends une comparaison, il y a juste 20 000 logements qui sont des HLM, qui sont pas super beaux, pas super confortables. Et ça, c'est le résultat de décennies d'investissement, d'un choix de société qui a été fait à Vienne. Ils se sont dit, nous, on veut prioriser le logement social dans une ville parce que c'est un droit fondamental. Et ils ont mis en place plein de choses pour que ça puisse se concrétiser.
Mais est-ce que nos gouvernements sont assez conscients de la crise, puis est-ce qu'ils en font assez?
Je dirais, ça dépend des niveaux de gouvernement. Le milieu municipal est très conscientisé. Les maires et les mairesses à travers tout le Canada. Moi, je connais mieux la situation du Québec, mais ils font plusieurs revendications auprès d'autres niveaux de gouvernement pour qu'ils puissent intervenir et investir davantage à ce niveau. Il y a un des enjeux, c'est que souvent le gouvernement provincial va donner davantage de responsabilités dans la cour des municipalités, mais n'apporte pas les ressources financières par la suite. Et de son côté, le gouvernement fédéral a investi beaucoup dans les années 70 et 80 dans le logement social et coopératif d'habitation. Il a coupé, en fait, dans ses financements, dans ses subventions à partir des années 1990. Ce qui fait qu'il y a une certaine déresponsabilisation des niveaux supérieurs de gouvernement. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut agir à différentes échelles. Mais les villes et les villages à travers le Québec, à travers le Canada, les provinces, sont en train, en fait, de prendre conscience de ce qui se passe puis essayer de déployer des choses dans la mesure du possible de ce qu'elles peuvent faire à l'heure actuelle.
Dernière question, M. Durand-Folco. Est-ce que nous, les Nord-Américains, est-ce qu'on n'a pas été un peu les artisans de notre malheur avec cette façon de penser que ça me prend ma maison, mon petit bungalow en banlieue, ma petite cour clôturée, mon petit carré de pelouse et tout ça, alors qu'il y a ailleurs dans le monde moyen de vivre dans un loyer tout à fait décent en ayant des voisins très, très proches et tout ça? Est-ce que cette culture nord-américaine a pas été un peu la cause, dans une certaine mesure, de certains de nos problèmes en matière d'accès à la propriété, de l'accès au logement?
Ouais, je pense que c'est une hypothèse très, 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 très intéressante à explorer. Ça doit aussi rentrer, je pense, dans les causes qui font en sorte que peut-être on a un certain imaginaire de c'est quoi la vie bonne, la propriété, c'est d'avoir sa maison à soi, comme vous le dites, avoir son espace, alors qu'il y a plusieurs façons de se loger, d'habiter ensemble. Et on voit même dans les nouvelles générations, on parle de vieillissement de la population. Et là, de plus en plus, il y a des nouveaux modèles qui émergent. Par exemple, le logement intergénérationnel qui existait avant, qui en quelque sorte, il n'a pas disparu complètement, mais il y en avait moins. Mais là, il y a un retour en force, on se dit. Mais là, il faudrait peut-être donner des subventions puis permettre à nos parents vieillissants d'habiter dans le sous-sol de notre maison, dans des toutes petites maisons, dans notre cour arrière. On prend soin, ils prennent soin des enfants. Le fait d'habiter à plusieurs, moi, je donne un exemple, par exemple, à Montréal, j'ai acheté une petite propriété, mais avec un autre couple d'amis, on est quatre à habiter ensemble dans un condo. Et là, on commence à avoir des enfants ensemble. Donc, il y a des modèles alternatifs qui émergent. Puis d'après moi, il faut juste dire, c'est pas d'habiter dans une maison qui est mal, il faut pas culpabiliser les gens, il faut que les gens aient accès à la propriété, mais il faut montrer qu'il y a plusieurs choix possibles de vie, puis il faut investir sur cette diversité d'approches.
Vraiment intéressant, franchement, on voit que le tunnel, on est encore dedans, ou en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a pas trop une lumière au bout du tunnel, mais avec ce que vous nous avez dit aujourd'hui, il y aurait des solutions là pour peu qu'on mette l'épaule à la roue, si on veut dire, puis qu'on avance là, pour que les choses bougent, là, finalement. C'est un peu ça, là.
Exactement, c'est ça. Donc, il faut revoir les modèles existants. On s'est peut-être basé, je reste sur une approche qui est sur le pilote automatique en disant, on va créer de la croissance, on va donner des subventions pour que les promoteurs construisent, ils vont construire des maisons, les gens vont se loger dedans, ça va être réglé. C'est beaucoup plus complexe, puis il faut beaucoup de volonté, puis il faut revoir nos façons de faire à différentes échelles.
Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Durand-Folco. Jonathan Durand-Folco, professeur agrégé à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul à Ottawa. C'était vraiment très instructif comme entrevue. Merci.
Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Au revoir.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
L'ancienne sénatrice Claudette Tardif a reçu l'Ordre d'excellence de l'Alberta, la plus haute distinction que la province de l'Alberta puisse décerner à un citoyen. Madame Tardif a été membre de plusieurs comités sénatoriaux et a travaillé sur diverses questions politiques et législatives. Elle a également été professeure puis doyenne à la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. L'Ordre d'excellence de l'Alberta reconnaît les Albertains de tous les domaines d'activité et de tous les horizons. Et Madame Tardif est la deuxième francophone seulement, à recevoir l'Ordre d'excellence de l'Alberta après Louis-Armand Desrochers, un autre défenseur de la communauté franco-albertaine en 2001. On va écouter le reportage d'Éline Coulou, qui est journaliste à Radio Cité à Edmonton pour l'initiative du journalisme local.
À la cérémonie de l'Ordre d'excellence de l'Alberta, en face de moi, l'honorable Claudette Tardif, anciennement d'Edmonton et récemment de Calgary. Bonjour, Madame Tardif.
Bonjour.
Durant tout votre parcours, vous avez reçu de nombreux prestigieux prix d'excellence et distinctions honorifiques canadiens. Mais l'Ordre d'excellence de l'Alberta est la plus haute distinction que la province de l'Alberta puisse décerner à un citoyen. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être membre de l'Ordre d'excellence de l'Alberta aujourd'hui?
Évidemment, je ressens beaucoup de fierté. Fierté parce que je pense que c'est une valorisation pour la communauté francophone à laquelle j'ai toujours été engagée et à laquelle j'ai toujours été fière d'appartenir. Alors, je vois ça comme étant un rayonnement, si on veut, de la francophonie. Et donc, je suis très contente. Je suis seulement la deuxième francophone qui a reçu cet honneur. Le premier a été Maître Louis Desrochers en 2001. Et il y a seulement 212 Albertains qui ont reçu ce prix prestigieux, si on veut, cette reconnaissance prestigieuse. Et donc, je suis très fière, mais en même temps, je ressens aussi beaucoup d'humilité parce qu'évidemment, tous les récipiendaires sont des gens qui sont extraordinaires et qui méritent bien, qui ont fait beaucoup de choses pour la province de l'Alberta, mais aussi pour le Canada. Alors, je ressens beaucoup d'émotions.
Cet incroyable parcours que vous avez eu, vous êtes battu pour la langue. Je me demande, quel lien avez-vous avec la langue française?
Pour moi, la langue française a toujours fait partie de mon identité. Ma grand-mère, Ernestine Provost, qui est née en Alberta au début du 20e siècle, elle a toujours cru, évidemment, elle était enseignante à l'île d'Orléans, au Québec. Et elle est venue en Alberta au début, comme je disais, du 20e siècle. Elle s'est installée à 100 kilomètres à peu près d'Edmonton. Elle a rencontré mon grand-père qui aussi avait acheté ce qu'on appelait un homestead à ce temps-là. Et puis, elle a toujours voulu que je fasse des études en français, que je garde mon identité francophone. Et je crois que pour moi, c'était elle qui a vraiment nourri en moi cette passion pour la langue et la culture française. Mon père n'était pas francophone. Il venait d'origine allemand russe, mais il a appris la langue, il nous a toujours appuyés. Et puis, je crois que j'ai toujours été inspirée par cet ensemble de langues et de cultures. Et évidemment, j'ai marié aussi Denis, qui venait de Saint-Paul, alors un francophone de l'Alberta. Et puis, je suis très fière de dire qu'aujourd'hui, mes enfants et tous mes petits-enfants parlent français. Alors, ça fait partie de qui nous sommes. On a ça dans les tripes.
Eh oui, c'est vraiment excellent. Pendant votre mandat, vous avez représenté la province de l'Alberta jusqu'à votre retraite en 2018 et vous avez été une ambassadrice hors pair de l'Alberta et des communautés francophones de l'Alberta et du Canada. Quelle était votre grande motivation dans cette quête?
J'ai eu le privilège de servir mon pays lorsque j'étais nommée au Sénat du Canada en 2005 par le très honorable Paul Martin. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, moi, je serai la voix pour ceux qui n'ont peut-être pas la voix qu'ils devraient y avoir. Je serai la voix pour les francophones en milieu minoritaire. Je serai la voix aussi pour ceux qui ont besoin d'être promus, qui ont besoin d'être acceptés, qui ont besoin d'avoir plus de voix. Alors, les francophones en milieu minoritaire, comme vous le savez, ont des fois des difficultés, souvent des difficultés, au niveau de l'éducation, au niveau des services en santé, au niveau de l'immigration, au niveau de recevoir des services en français. Alors, pour moi, c'est un privilège d'entendre les causes, d'entendre les gens qui venaient me voir pour plaidoyer, m'indiquer leurs besoins, leurs intérêts, leurs causes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, de leur donner une voix dans mes fonctions de Sénat, en posant des questions, en mettant de l'avant des motions, en leur donnant une voix, voilà.
En leur donnant une voix. Vous venez de parler du Sénat? Votre premier discours au Sénat portait sur l'importance de l'éducation postsecondaire et le développement de l'éducation francophone en général. Comment pensez-vous qu'on peut préparer les jeunes à relever les défis de notre société aujourd'hui, particulièrement la société francophone?
J'ai toujours adoré travailler avec les jeunes. Pour moi, c'était un grand plaisir d'avoir été professeure, chercheure et doyenne à la faculté Saint-Jean et de travailler avec les jeunes. Et je trouve toujours inspirant de travailler avec les jeunes. Aujourd'hui, les défis sont grands, je pense, pour nos jeunes. La société reçoit beaucoup de messages mixtes et je crois que nos jeunes reçoivent beaucoup de messages mixtes avec les médias sociaux, avec tout ce qui se passe. Alors, je trouve que c'est difficile. Mais je pense aussi qu'il y a aussi des occasions pour nous d'essayer de trouver des occasions pour inspirer nos jeunes et de leur donner des modèles. Et je dis toujours aux jeunes, il faut suivre nos passions, il faut essayer de vivre une vie qui a un sens et de se trouver un but. Et de ne pas avoir peur de prendre des risques, de s'engager dans quelque chose qu'on croit dedans. Et je pense que les jeunes sont de nature, passionnés, curieux. Et je leur dis, allez-y avec votre passion, allez-y avec vos intérêts. Et je crois que notre rôle, c'est d'essayer de les accompagner.
Madame Tardif, aujourd'hui, vous êtes membre de l'Ordre d'excellence de l'Alberta. Quel message adresseriez-vous à la communauté francophone aujourd'hui?
Je suis fière d'être ici. Je suis fière de parler de l'importance de notre francophonie, de l'importance de nos deux langues officielles au Canada et de faire la promotion de la langue française auprès des francophones et des francophiles. Et puis, voilà, j'espère que les francophones pourront célébrer avec moi et moi, je célèbre avec eux ce merveilleux prix que je reçois.
Madame Claudette Tardif, je rappelle, vous êtes enseignante, professeure, chercheure, doyen, sénateur et bâtisseur communautaire. Aujourd'hui, membre de l'Ordre d'Excellence de l'Alberta. Une fois de plus, félicitations et bonne suite pour le reste.
Un grand merci. Au revoir.
Éline Koulou, journaliste pour EJL.
Peut contenir des infos.
Avant de passer au quiz dans quelques minutes...
Que tu auras le plaisir d'animer.
Tout à fait. Petit sujet très intéressant. Il y a quelque chose d'assez singulier qui s'est passé il y a quelques semaines, à la fin du mois de septembre. Et ce sont quatre entreprises du secteur des télécoms et des technologies, c'est-à-dire Bell Canada, Verizon, Vodafone et Matsuko, qui ont procédé à quelque chose de... Tout à fait.
Là, on parle international.
Oui, c'est international. Alors, les trois premières, on les connaît pour essentiellement les télécommunications, c'est-à-dire le domaine, entre autres, de la téléphonie sans fil. Je n'ai vraiment pas besoin de les présenter. Là, entre autres, Verizon aux États-Unis, qu'on connaît bien, Bell Canada ici au pays. Et la quatrième entreprise, c'est Matsuko. Et elle est connue, celle-là, dans le domaine de l'holographie. On est rendu là. Et c'est précisément ce qu'on a réalisé vers la fin du mois de septembre. Les membres du Forum sur l'avenir du réseau 5G ont interagi ensemble avec des hologrammes.
Wow!
Ouais, première fois qu'on faisait ça. Cool. Alors, au lieu des avatars, comme on voit, par exemple, dans le métavers, là, tu sais, Mark Zuckerberg, il veut qu'on parle avec des bonhommes qui ressemblent au Wii, là. Tu sais, la Mi-Wii, là, je sais pas trop, il y a des bonhommes, là. Alors, eux autres, ils ont dit, non, une minute, là, on va aller plus loin.
On va faire ça mieux que ça.
L'hologramme. Alors, les quatre entreprises ont réalisé avec succès la première réunion transatlantique collaborative en direct. Ils ont connecté plusieurs hologrammes de personnes qui étaient situées à des endroits différents, pour le rappeler, Canada, États-Unis et Royaume-Uni. Et les mouvements des hologrammes étaient à la fois fluides et naturels, tellement que les gens qui ont participé, des employés des entreprises, ont dit c'est bluffant, là.
Mais tu sais, on voyait ça dans les films, puis on se disait, ben non, franchement, là.
Alors, on est là. L'interaction avec des hologrammes plutôt que des avatars, ça va offrir une expérience qui est beaucoup plus personnelle que de parler avec un bonhomme qui a l'air d'un cartoon.
Oui, c'est
ça. Et on pourrait donc lui trouver une foule d'applications, des consultations médicales à distance, par exemple, travail collaboratif, l'éducation. Alors, plutôt que d'avoir des personnages qui ressemblent des affaires sorties d'un jeu vidéo de Nintendo, finalement...
C'est ça, puis qui te font juste pouffer de rire, là.
Ouais, c'est ça. Alors, et pour rendre cette discussion holographique possible, on a eu recours à la vitesse 5G, qui est suffisante, et on a combiné ça à une technologie informatique qu'on dit en périphérie à accès multiple. Je vous expliquerai pas tous les détails parce que ce serait un petit peu technique, là. Alors, les hologrammes d'employés qui étaient situés dans trois pays différents ont été en mesure de communiquer ensemble. Il y en a qui étaient à Toronto, les employés de Bell, à New York pour les gens de Verizon, et puis les gens à Londres, eux autres, ce sont des gens qui étaient sur le réseau 5G de Vodafone, et les hologrammes ont eux autres été créés avec un logiciel en temps réel qui a été constitué ou en fait qui a été élaboré par Matsuko. Et juste avec une caméra un téléphone cellulaire ordinaire et une application spéciale, on est capable, on se met des lunettes, des espèces de lunettes de réalité virtuelle ou augmentée, et là, on voit devant soi, à la table, assis, des hologrammes de personnes qui sont à toute fin utile la représentation de la personne qui est à l'autre bout, et elle te parle comme si tu étais en train de discuter avec elle.
Ça commence à être flyé pas mal.
Ça commence à être un peu flyé.
C'était-tu dans Star Wars les premières fois qu'on a vu? Il me semble que c'est ça, hein?
Je pense que oui.
Oui, c'est dans c'est Star ça. Wars qu'on a dans vu Star la première Wars. Fois des hologrammes.
Alors, on pourrait voir pourquoi, là, pour que je l'ai dit tantôt, l'éducation, donner des cours à distance, ça serait beaucoup plus sympa.
Hey, là, tu viens d'ouvrir une porte, là.
Dans les bureaux pour faire des réunions professionnelles, dans les hôpitaux et tout ça. Alors, surveillez ça parce que d'ici un très, très proche avenir, écoutez, on vient de faire les premiers tests, donc il y a tout lieu de croire que d'ici quelques années, nous autres aussi, probablement, le commun des mortels, allons pouvoir, sur notre téléphone cellulaire, avec une paire de lunettes spéciales, voir, c'est pas moi, grand-maman, grand-papa, dans une réunion, au lieu d'être dans un Zoom.
C'est ça.
On va le voir. C'est tellement bluffant, tout fin utile, que ça a l'air que... Moi, j'ai vu une démo, mais sur Internet, donc c'est pas la même affaire, mais tu pourrais quasiment t'avancer le bras, là, puis t'as comme l'impression qu'il est en avant de toi. Ah ouais. Spécial.
On est rendu là,
absolument. Oui. Le quiz dans un instant, restez branchés.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
Mon cher ami François.
Ouais.
Es-tu prêt pour
Ah oui, je suis allé faire le tour du building. Je suis prête.
Tu t'en sueur, là.
Ah oui,
pas de bon
ça,
sens.
Ça dégoûte de partout.
Prends-toi une petite serviette là, à côté. Là, alors, c'est moi qui vais poser les questions cette semaine. J'espère que les gens à la maison ont fait leur leçon ou leur devoir et qu'ils ont étudié également. C'est un quiz cette semaine sur le Canada.
Sur le Canada.
Il y en a des faciles, il y en a qui sont un petit peu plus compliqués. On va commencer avec une facile.
Les faciles sont souvent les plus difficiles
parce que
tu t'en souviens plus.
Non.
Mais c'est correct. OK, vas-y.
Tellement facile. Quelle est la ville, puis tu as un choix de réponse. Quelle est la ville la plus populeuse au Canada?
OK.
Toronto. Montréal ou Vancouver?
Toronto. Oui.
Population de près de 2,8 millions d'habitants en 2021. Toronto devance Montréal avec un peu moins d'1,8 million de personnes en 2021. Et Vancouver avait un peu moins en 2021, s'entend. On a peut-être grappillé quelques milliers par-ci par-là. Mais Vancouver avait un peu moins de 700 000 personnes.
Ah oui? Ah, c'est drôle. Hein? Moi, j'aurais pensé que c'était au-dessus d'un million dans le Grand Vancouver.
700 000, à peu près.
Ah ben, OK. On en apprend tous les jours.
Et ça vient de Stats Canada, là.
Oh oui, OK.
Le recensement.
Oui, oui.
Tu comprends?
Fait que c'est vrai.
Ça fait que c'est ça. C'est vrai.
C'est des vrais chiffres.
Quel est le plus grand lac entièrement situé au Canada? A. T'as un choix de réponse. Puis les gens aussi à la maison, là.
Le plus grand lac.
Le lac supérieur. Entièrement situé au Canada.
Oui, c'est ça.
Le lac supérieur, le grand lac de l'ours ou le lac Huron?
Le supérieur, il touche-tu aux États? C'est ça que je suis en train de me demander. Je dirais le lac Huron. Non?
Le lac supérieur fait peut-être plus de 82 000 km² et le lac Huron tout près de 60 000 km².
Mais?
Le grand lac de l'ours, donc la réponse B, est situé dans les territoires du Nord-Ouest et c'est le plus grand lac entièrement situé
au Canada.
Ouais. Peut-être pas du nombre de la superficie, là, mais quoique il soit plus grand en fait de superficie, le lac supérieur avec ses 82 000 km², il reste que le fait qu'il soit pas entièrement situé au Canada le place derrière. En deuxième position. Et en troisième position, ce serait le lac Huron.
Donc le
grand lac de l'ours, premier grand lac, ou enfin premier lac en fait de superficie, qui est entièrement chez nous, là.
Oui.
C'est ça. Quel est le plus haut sommet du Canada? A, le mont d'Iberville. B, le mont Robson. Ou C, le mont Logan?
Wow! Le mont Logan.
Exact. Alors, le mont Logan a 5 959 mètres d'altitude.
Oui.
Il dépasse le mont Robson, qui est à 3 954 mètres. Et le mont d'Iberville, c'est dans le Nunavik, ce qu'on appelait le Nouveau-Québec à l'époque, les trucs genre. Alors, lui, il est 1646 mètres.
Il
est beaucoup plus petit
que... Je ne me souvenais pas de ce nom-là. Ouais,
beaucoup plus petit que le mont Logan, mais 1646 mètres.
Oui, c'est quand même...
Ça fait une bonne marche.
C'est une bonne marche, puis si tu le descends en ski, ben...
Mets-toi un petit canuc. C'est une
belle petite pente.
Ouais, c'est ça. Quelle chaîne de montagnes... c'est une facile. Quelle chaîne de montagnes s'étend le plus à l'ouest du Canada? Les Rocheuses, les Appalaches ou les Laurentides? Prends ton temps.
Je vais y aller avec la roche.
Les Rocheuses canadiennes. Bravo!
Merci!
Il y en a, par exemple, qui vont être un petit peu plus compliqués, mais il en reste trois, OK?
OK, ouais.
À combien s'élevait la population du Canada lors du dernier recensement réalisé en 2021? On en a parlé un petit peu tantôt.
Oui.
Alors, était-il d'environ 37 millions d'habitants, à peu près 42 millions d'habitants ou environ 35 millions d'habitants?
Je pense que c'est 37.
Ouais, c'est ça. Alors, à l'occasion du recensement de 2021, la population dénombrée au pays était de 36 991 981 habitants.
C'est précis. Merci.
Soit près de 37 millions, comme on le disait.
Ouais, oui. Alors, ouais. OK, 37 millions.
Hein. Et on parle de recensement.
On est proche du 40, là.
Ça s'en vient, hein. D'ici une couple d'années, on va y être, là. C'est aussi bien de s'y mettre, par exemple, là, parce que, je veux dire, il y a quand même un 3 millions à atteindre, là.
Oui. En tout cas, c'est ça. Prochaine question, s'il vous plaît.
Est-ce que vous voudrez? Là? Parlant de recensement, à quelle fréquence on fait ça, les recensements au pays? 7 ans, 5 ans ou 4 ans?
Je dirais 4.
Non.
Non, c'est 7, hein?
C'est 5 ans.
C'est 5 ans?
C'est aux 5 ans, hein? Ouais, aux 5 ans. Les recensements de la population canadienne ont lieu tous les 5 ans au Canada. Le dernier a été effectué en 2021.
Ouais, fait que le prochain est en 26.
En 2026, exactement. Et on est déjà en train de sonder. En fait, on a commencé au début de l'année à sonder les organismes, par exemple, et certains individus à travers le pays sur les questions là qu'on devrait intégrer là-dedans par rapport à tantôt la langue, les trucs. Mm-hmm.
C'était pas 7 ans à un moment donné?
Je sais pas, mais c'est 5 ans.
Je pense au début.
Ça se peut.
Ouais, au début.
C'est dans le temps qu'il fallait marcher pour aller chez le monde.
Le monde passait au port.
Ah, oui, exactement. Il y avait des gens qui passaient pour faire le recensement avec un calepin et tout ça.
Oui.
Ah, c'était probablement ça. Ils se disaient, OK.
Attends une minute, là, on va faire ça au 7 ans, là.
Et on y complète avec cette question qui est un peu politique sur les bords.
Oh.
Le Canada est A, une monarchie constitutionnelle, une république parlementaire ou c'est une monarchie absolue.
Non, c'est une monarchie...
constitutionnelle. Oui. Exact. Monarchie constitutionnelle, c'est un régime politique qui est assujetti à un monarque élu ou héréditaire. Dans notre cas, héréditaire, évidemment, la famille royale, là, ils ont un camp, eux autres, je pense, en Angleterre.
À quelque part, oui.
C'est ça. Alors, c'est le chef de l'État, mais la Constitution limite quand même les pouvoirs. Si on était une monarchie absolue, ben là, on s'entend que... c'est comme le roi ou la reine qui décide de ce qui se passe. Mais c'est pas tout à fait le cas.
On l'a pas rapatrié, notre constitution, à un moment donné, nous autres. Oui, hein, mais pas, mais on est encore sous la monarchie.
C'est exact. Oui. C'est pour ça qu'on a, par exemple, un gouverneur général, des lieutenants-gouverneurs dans les provinces.
Mm-hmm.
Et puis qu'on prête allégeance aussi à la couronne.
Là, ça coûte pas cher. On l'a juste.
T'entends-tu quoi?
Non. Non, ben non, mais c'est parce qu'il y a des moustiques ici, là, dans le building, là. C'est étonnant, là. Toi, tu prépares-tu ton terrain pour l'hiver?
Un peu, mais je suis pas fou non plus de ça, là.
OK. Ouais. Ouais.
Moi, mettre, là, 20 sacs de feuilles au bord du chemin, là, c'est pas trop moi, ça.
Ben, c'est justement ce dont je voulais te parler. Parce qu'il faut... Bon, OK, le temps arrive, là, on n'aura pas le choix, là, va falloir décider, on ramasse-tu nos feuilles à l'automne, on les ramasse au printemps, ou qu'est-ce qu'on fait avec nos feuilles, hein? Nous, on a deux façons de penser ici en studio.
Absolument.
Oui, et de faire. Parce que Simon, il les ramasse pas. Moi, je les mets dans un sac.
OK, c'est une façon de penser.
Oui, absolument. Et quelle est la bonne, selon toi?
Moi, je pense que j'ai la bonne.
Oui, t'as la bonne. C'est toi qui as raison. Ils disent que on devrait en faire premièrement du paillis de feuilles.
Exact.
Donc, passer à tondeuse dessus plutôt que de les ramasser.
Oui.
Et garder des tas de feuilles pour couvrir nos plantes.
Entre autres choses.
Mettre ça dans le potager, là, dans le jardin, là. On couvre le jardin complètement de feuilles parce que ça va permettre, entre autres, aux abeilles d'avoir des nids pour passer l'hiver.
C'est ça. Puis les petits insectes.
Oui.
Puis il y a des petits mulots, par exemple, ou des petites grenouilles qui vivent sous le couvert de neige. Non, mais c'est...
Oh oui, non, je sais, t'as raison.
Puis, ben, si elles ont des insectes à manger, puis des petits des animaux tout petits, là, ou appelle
c'est ça.
Tout ça. Alors, eux autres, c'est un peu de la nourriture, là.
Oui, et tout ça va faire aussi que ça va nourrir votre sol.
Exact.
Alors, ça va protéger votre sol, ça va le nourrir, et la belle affaire, c'est que les feuilles, quand elles laissent là, ça empêche les mauvaises herbes de pousser. On haït-tu ça, les mauvaises herbes?
Un peu.
Ben, tu sais, en tout cas, on les aime pas tellement, là. Ouais. C'est sûr que vous avez le choix, là. Vous pouvez passer à tondeuse, en faire du paillis, laisser ça là, hein, puis au printemps, ça va probablement être déjà toute partie parce que ça va rentrer dans la terre. Mais par contre, y a-tu quelque chose de plus plaisant à l'automne, de sortir dehors en famille, sortir les râteaux, faire un méchant gros tas de feuilles et se garrocher dedans?
Ah, ça, c'est clair. Ça, avec les enfants.
C'est le fun.
Ouais. Mais il n'y a rien qui vous empêche, là, en passant, de ramasser les feuilles et de les mettre dans des sacs pour peu qu'il y ait une collecte qui soit dédiée à ça.
Oh oui, absolument.
Faut pas que ça se ramasse au dépotoir.
Non.
Vous savez, le problème avec ça, c'est, et ça, c'est lu, documenté, puis argumenté par nombre de spécialistes, c'est que les feuilles, quand tu mets tout ça dans une place en même temps, à même place,
oui.
C'est que c'est pas très, très aéré. Ça va finir par faire du méthane, entre autres choses. Mm-hmm. Puis ça se décompose pas de la très bonne façon.
Oui.
Tandis que si c'est acheminé, par exemple, dans un endroit où on va en faire du compost, on va mélanger ça avec d'autres substances,
oui.
Ça...
Là, c'est correct.
Ça, c'est correct.
Oui. Oui, oui.
Mais sacré ça au vidange, là.
C'est pas une bonne idée. Les brûler non plus, c'est pas nécessairement une très bonne idée.
C'est ça.
Mais c'est ça. Donc, vous avez le choix, là, mais l'idéal serait que vous passiez la tondeuse une dernière fois, puis vous... Mais c'est parce que le problème aussi, c'est que quand les feuilles commencent à tomber, là, ils ont commencé à tomber, là, bon, ils nous tombent sur la tête, là, puis nos voitures sont pleines le matin, mais c'est parce que c'est pas fini encore, ça, là.
Non, c'est ça, ouais.
Fait que c'est quand le moment que tu fais ça, t'es rendu au mois de décembre quand ça finit de tomber.
Il y a ça, par exemple. C'est sûr qu'il y a des endroits...
Là, tu passeras pas souffleuse dans tes feuilles. Là.
Non, c'est évident qu'il y a des endroits à travers le pays où la neige arrive beaucoup plus tôt qu'à d'autres endroits.
Ben oui, c'est ça.
Commencer à sortir la tondeuse comme au mois de décembre. C'est comme...
Ça fait drôle un peu,
je
hein?
Je suis plus rendu dans la souffleuse, mettons.
Ouais, c'est ça. Ça fait drôle.
Tu vas pas passer à la souffleuse sur le terrain pour scraper les feuilles non plus.
Non. Puis oubliez pas de bien sûr, tailler vos arbres et arbustes hein,
oui.
Avant l'arrivée de la neige. Et si vous avez des gouttières...
Et que vous...
Oubliez pas de les nettoyer.
Ben. Je comprends
parce
donc.
Que vous allez avoir des beaux petits dégâts au printemps.
C'est ça, parce oui. Que l'eau va prendre là-dedans, ça va
c'est
geler. Ça
ne
trouve plus le tour de s'égoutter. Puis,
oui, puis faites bien attention de aussi, lorsque vos gouttières, le bas de vos gouttières, là,
oui.
Pas trop proche de la fondation. Là.
Exact.
Faut pas que ça s'envoie sur la fondation. Là.
Oui, ils se vendent des espèces de tuyaux là, qui
oui.
Ressemblent un peu à un drain français, là, si on veut. Là,
oui,
se fait ça.
C'est ça.
Ils vendent ça en bout de 2 pieds, 3 pieds.
Ouais, puis tu peux l'étirer.
Tu l'étires, là, puis tu amènes
c'est
ça assez loin de la maison.
Oui.
Tu t'évites des problèmes.
Oui, absolument. Puis maintenant, je veux dire, tu peux mettre aussi un morceau de métal troué là, sur les gouttières, là, qui fait que l'eau va continuer à passer dans la gouttière.
C'est ça.
Mais les feuilles restent sur le dessus. Eux autres, ils s'en vont pas dans les tuyaux.
Alors, est-ce que ça complète?
Oui, ça complète, mon cher.
Sur ces sages conseils,
oui,
M. Pousse-Vert.
Hey, si vous saviez. Oui, monsieur Pousse-Vert.
On va se faire une chronique horticulture et paysagiste.
Ah, oui,
et puis c'est François qui va avoir la tâche à chaque semaine de venir nous parler de trucs, de culturer des plantes.
Ouais, oui, je vais vous dire comment garder vos plantes d'intérieur et finalement pas avoir une feuille dessus.
Alors, c'est complet pour l'émission de cette semaine. Espérons que vous l'aurez apprécié et que vous allez nous retrouver la semaine prochaine.
Absolument.
Pour une autre édition.
Bonne semaine, tout le monde.